sur la côte vendéenne. Neptune FM. Il est 21h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, comme j'ai pas été là la semaine dernière, j'ai genre moult choses à vous raconter. Donc ça risque de durer un moment. Je pense que je vais dépasser après 10h. Alors, je vais vous parler déjà du groupe After School. On aura ensuite 3 chroniques sur des mangas des éditions Kiun. On aura la chronique du volume 5 de Black Torch, la chronique du volume 11 de Bright Stories et la chronique du volume... où est-ce que c'est? J'ai tellement de pages partout. La chronique du volume 18 de Barakamon. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On aura une nouvelle partie culture avec le sumo, un sport des plus japonais aux protagonistes bien particuliers. Donc on en parlera... On commencera à en parler cette semaine et on en parlera ensuite un petit peu la semaine prochaine et peut-être la semaine d'après, à voir. On va faire un petit point aussi sur le coronavirus, voilà, puisque tout le monde en parle, je vais en parler aussi. Voilà, donc on parlera de près de 40 membres d'une secte qui ont été contaminés en Corée du Sud. Et on finira avec une petite news musicale concernant Changmo et Ash Island qui seront en concert à Paris en mai prochain. On commence avec la première chanson de l'émission, c'est Inai Inai de Kiryu, et on revient juste après pour parler du groupe After School.
で笑う
Donc c'était Kiryu avec la chanson Inai Inai. On passe maintenant à la présentation du groupe After School. Donc, c'est un groupe sud-coréen de pop R&B qui a fait ses débuts en 2009 et qui est actuellement en pause. Donc il est sous les labels Gold, Typhoon et Pledis Entertainment depuis 2009, ainsi qu'avec Strax depuis 2011. Il appartient au groupe Pledis World depuis 2009 qui est toujours en activité. Et sinon, le groupe se compose de trois membres. On a Raina, la chanteuse principale depuis 2009, Nana, chanteuse secondaire, rappeuse principale et danseuse depuis 2009, et Hyung, au chant et au rap depuis 2010. Et on compte aussi 8 ex-membres, donc ça va être long. Donc on a Kai, leader, chanteuse principale, rappeuse secondaire, danseuse principale et chorégraphe, Jung-ha, qui est leader, chanteuse principale et danseuse principale, Yoo So-young, au chant et à la danse, Lee Ju-young, chanteuse secondaire, Rebecca Kim, qui était la rappeuse principale, Yoo Ye, qui était chanteuse secondaire et danseuse principale, Park So-ha, qui était chanteuse secondaire, rappeuse principale et danseuse, et Lee Ga-eun, qui était chanteuse secondaire, rappeuse secondaire, et McKnight. Alors, les After School, qui se composent au départ de 5 membres, donc Park Gae, Kim Jung-ha, Lee Jung-young, et on a aussi Kim, Rebecca et Yoo So-young, ont donc débuté le 17 janvier 2009 avec la promotion de leur premier single. Quelques mois plus tard, une nouvelle membre nommée Yue a été présentée par l'agence. Le groupe a ensuite travaillé sur 2 singles, dont Love Machine, qui est une reprise du groupe japonais Morning Musume. Un peu plus tard, en octobre 2009, So-young quitte le groupe pour poursuivre sa carrière d'actrice. Cependant, de nouvelles membres, Nana et Raina, rejoignent le groupe. Le début de l'année 2010 a été marqué par l'arrivée de Lizzie et ensuite en juin, Nana, Raina et Lizzie forment la première sous-unité du groupe, appelée Orange Caramel. Il faudra alors attendre décembre 2010 pour revoir le groupe sans BK pour le single Happy Pledis 2011 à l'occasion du projet caritatif Save the Children. Pour commencer 2011, Kai, la leader du groupe, sort son premier album solo. Ensuite, toujours sans BK, le groupe accompagne la chanteuse japonaise Namie Amuro sur la chanson Make It Happen. Sort ensuite leur premier album studio qui marque l'arrivée d'Hyung, mais aussi le départ de BK. Pour leur quatrième single, le groupe est divisé en deux pour proposer 2 concepts différents de 2 producteurs différents. Le groupe fait ensuite ses débuts au Japon. Au mois de décembre, les 8 jeunes femmes travaillent sur le single Happy Pledis avec d'autres idoles de leur agence. Pour commencer l'année 2012, le groupe sort son premier album japonais dont la piste Just In Time a été utilisée pour la campagne de Samantha Tavassa et sa firme de sac, dont les jeunes femmes sont les mannequins. Cet album a également été honoré d'une tournée au Japon, la première tournée individuelle du groupe. Les After School ont ensuite sorti leur quatrième single japonais avec la piste Lady Luck, qui a servi à promouvoir la même marque de sac, la piste Dilly Dally, qui a servi à la promotion des déodorants Rexona, voilà, c'est important de le préciser, et enfin la piste Slow Love, qui a été associée à une pub dans l'immobilier. Près d'un an plus tard, pour leur comeback, le nouveau concept dévoilé est de nouveau sexy. En effet, les membres du groupe se sont entraînés 6 mois pour intégrer du pole dance dans leur performance. Néanmoins, toutes les membres n'ont pas pu montrer au public le fruit de leur travail puisque Lizzie se blesse lors de l'entraînement et Nana en descendant de scène lors des premières performances. Voilà, c'est ballon. 2 teasers vidéo ont ensuite été mis en ligne, l'un réalisé par Hyung montrant ses talents d'instrumentiste avec une reprise instrumentale au piano, à la batterie, à la guitare et à la basse. La promotion de leur album suivant n'a par ailleurs pas pu se faire sur la chaîne KBS qui a jugé la chorégraphie inappropriée. Le 8 octobre 2014, Raina débute en solo avec une deuxième tournée japonaise pour le groupe par la suite. Le 31 décembre, Joyeon est diplômée du groupe, ce qui marque donc son départ. Elle déclare vouloir s'essayer à d'autres activités et développer sa carrière d'actrice. Le 23 janvier 2015, Lizzie débute aussi en solo et en janvier 2016, la leader Jung-ha est diplômée, ne fera donc plus partie du groupe. Ce départ marque clairement un moment fort et hautement symbolique pour le groupe, car elle était la dernière des 5 After School originelles. Enfin, début 2017, Yue décide de ne pas renouveler son contrat avec Pledis et quitte donc le groupe. Voilà, donc elles sont plus que 3. A priori, la pause va durer un moment. Je pense que c'est finito, mais on ne sait jamais. Alors, côté discographie, on a un total de 3 albums. Le premier Virgin qui est sorti le 28 avril 2011 et le dernier Dress to Kill qui est sorti le 19 mars 2014. On a un mini-album, Happy Pledis 2012 Love Letter, qui est sorti le 1er décembre 2011. 3 best albums. Le premier, The Best of After School 2009-2012, la version coréenne qui est sortie le 27 mars 2013. Et Best, tout simplement, qui est sorti le 18 mars 2015. On a aussi 12 singles. Le premier, New School Girl, qui est sorti le 15 janvier 2009. Et le dernier, c'est Shh, qui est sorti le 29 janvier 2014. On a aussi 8 digital singles. Le premier, Diva, qui est sorti le 9 avril 2009. Et le dernier, Shine, qui est sorti le 19 novembre 2014. On a aussi une compilation, Infinity Challenge Olympic Duet Song Festival, qui est sorti le 13 juillet 2009. Et enfin, elles ont participé à une OST, l'OST de Tamra The Island, qui est sortie le 7 septembre 2009. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite deux chansons de After School. On commence avec Bang et on viendra juste après pour la chronique du volume 5 de Black Torch.
Hey, do you know about the girls' work?
What? What a girl?
It's just like...
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Dress code.
Donc c'était Dressing Room de After School. On passe maintenant à la chronique du volume 5 de Black Torch. Alors je rappelle que c'est un shonen de genre action-drame surnaturel qui a été écrit par Takaki Tsuyoshi et pré-publié dans le Jump SQ. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 5 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Kiun avec également 5 tomes. Ce volume 5 est sorti le 7 mars 2019 au prix de 6,90€. Le résumé du tome: afin d'apprendre à maîtriser l'aura spectrale que Rago lui a cédée avant d'être kidnappé, Jiro a pour mission de survivre seul dans un endroit isolé, connu parmi les Honmitsu sous le nom de Forêt des Ténèbres. Seulement, ces bois sont contrôlés par la redoutable Mononoke Ibuki et elle ne compte pas laisser au jeune homme une minute de répit. Pendant ce temps, Amagi a rassemblé ses troupes pour préparer l'assaut final qui soumettra l'humanité. Mais contre toute attente, il se met à dévorer avidement toute son armée, absorbant ainsi la force de ses alliés. L'agent de l'unité Black Torch parviendra-t-il à sauver le monde de cette terrible menace? Pour mettre en place son plan de conquête, Amagi n'hésite pas à absorber ses propres congénères et à acquérir une puissance sans limite. Si les Mononoke commencent à se sentir trahis, il semble trop tard pour arrêter le démon, qui n'était pourtant pas si radical autrefois. Les Honmitsu doivent alors se réunir pour contrer l'ennemi avant qu'il ne soit trop tard. Pour Jiro, l'enjeu est différent. Il compte bien sauver Rago. Nous y sommes déjà. Black Torch touche à sa fin avec ce 5e tome, un ultime opus qui confirme quelques craintes qu'on avait sur la conclusion de la série. Donc le temps semble avoir manqué à Tsuyoshi Takaki, puisque tout semble croire que cette conclusion est le fruit d'une décision de fin forcée, notamment parce que tout va à 100 à l'heure, ce qui n'est pas un mal sur le plan du rythme, faisant qu'il est difficile de s'ennuyer sur l'ensemble du volume. Entre un flashback qui vient raconter l'évolution des ambitions d'Amagi, la révolte de ses quelques alliés et le grand combat final, le mangaka n'a que peu le temps de développer le tout, ce qui amène bien des sacrifices scénaristiques. Les arcs d'Ichika et Reiji ne sont donc pas conclus, la place des deux personnages restant totalement mineure. Ce tome est plutôt celui de Jiro, car c'est lui le dernier espoir, le héros étant le seul à pouvoir affronter Amagi grâce à la force de Rago qui est restée en lui. Les espoirs des personnages reposent bien sûr les épaules du protagoniste, mais aussi les espoirs des lecteurs d'assister à un grand moment avant la fin. Et à ce titre, Tsuyoshi Takaki ne déçoit pas vraiment. Son combat repose certes sur des facilités du genre, mais il n'en demeure pas moins époustouflant, riche en rebondissements et explosif à chaque case. Si on vantait déjà les mérites graphiques de l'auteur jusqu'ici, il franchit encore un cap avec un combat purement jouissif pour les amateurs du genre, permettant alors de conclure Black Torch sur une note positive. La série se conclut donc bel et bien sur un arc narratif, ce qui en soi permet de refermer ce dernier tome avec un goût moins amer que prévu en bouche. Il restait énormément de choses à raconter, certes, mais la tonalité épique du dernier tome, associée à un combat final spectaculaire, auront permis de sauver les meubles et surtout de confirmer tout le potentiel de l'auteur. Du point de vue de Black Torch dans son ensemble, il est indéniable que la série souffre d'un manque de développement, de certains personnages notamment, ce qui va de pair avec l'arrêt soudain de la série. Preuve en est, les dernières pages du tome contiennent un récap de chaque personnage, accompagné d'explications sur ce que prévoyait Tsuyoshi Takaki pour chacun d'eux. Entre un arc mettant en avant la politique, la grande querelle familiale de Reiji, la rédemption de Koga ou encore la montée en puissance d'Ichika, l'auteur avait bien des choses à raconter par la suite. Black Torch aurait donc bien pu devenir une série longue fort plaisante, mais elle n'en aura jamais eu la chance. Dommage. À défaut, on retiendra du titre une petite série très sympathique qui aura accompli sans mal son rôle de divertissement pur. Voilà, donc Black Torch à retrouver en 5 volumes aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est True Pride de Kitamura Eri, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 11 de Bright Stories. c'était Kitamura Eri avec la chanson True Pride. On passe maintenant à la chronique du volume 11 de Bright Stories. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre drame, histoire courte, historique, romance, tranche de vie, qui a été écrit par Mori Kaoru, traduit par Johan Leclerc et prépublié dans le Philos. La version japonaise est parue aux éditions Hunterbrain, avec un total de 12 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kiun, avec pour le moment 11 tomes de sortie. Donc ce volume 11 est paru le 18 avril 2019 au prix de 7,65€ et le tome 12 est prévu pour le 2 avril 2020. Donc à tout de suite. Alors, le résumé de ce tome. Après de nombreuses épreuves, Smith a enfin atteint Ankara. Il y retrouve son vieil ami Hawkins qui le presse de rentrer en Angleterre. Mais le voyageur a d'autres projets. Maintenant qu'il s'est procuré un appareil photo, il compte revenir sur ses pas pour immortaliser tout ce qu'il a vu lors de son périple. La ville lui réserve cependant des surprises. Au détour d'une ruelle, il tombe nez à nez avec Talas, la jeune veuve qu'il avait voulu épouser à Kalaza. Loin d'avoir abandonné, elle est désormais prête à se faire passer pour morte afin de vivre avec celui qu'elle aime. Voilà qui risque de bouleverser les plans du chercheur. T'aurais pas dû mettre ce bed. J'ai envie de l'écouter maintenant. J'ai plus envie de parler. Voilà, The Who en bed. Le froid de l'hiver vient désormais bien s'installer dans les vastes plaines d'Asie centrale, comme nous le montrent les toutes premières pages de ce 11e volume, où l'on suit brièvement, dans une atmosphère aérée et sous un dessin toujours aussi ravissant, quelques-uns de nos attachants personnages, avant de retrouver tout le reste, pendant tout le reste du tome, Henry Smith, notre cher explorateur, enfin arrivé à Ankara avec son guide Ali, et où il retrouve son vieil ami Hawkins, ainsi qu'une visiteuse inattendue qui le chamboulera forcément, puisqu'il s'agit de Talas, la belle et jeune veuve qu'il envisageait d'épouser lors de son escale à Kalaza, mais qui était déjà promise à un autre. Quelques pages de ce volume nous permettent de suivre le parcours de Talas, depuis Kalaza jusqu'à Ankara, depuis sa rencontre arrangée avec celui qui devait alors devenir son mari, un veuf aussi ayant visiblement bon cœur, jusqu'à ses retrouvailles avec Smith. Et en ces quelques pages, Kaoru Mori, par la force de son dessin, des expressions de Talas et de sa mise en scène, offrant quelques superbes envolées romantiques et presque épiques, nous fit très bien ressentir à quel point cette femme attachante a été réellement séduite par l'anglais. Et on le voit bien, c'est mutuel, leurs retrouvailles sont douces et belles, mais aussi marquées par un fort désir de s'épouser l'un l'autre, même s'il n'y a pas de dot, même si certaines personnes ne seraient pas forcément d'accord à 100%, juste par amour. C'est donc avec une compagne d'aventure supplémentaire que Smith reprendra son voyage vers l'Est, évidemment, maintenant qu'il a récupéré l'appareil photo qui lui permettra d'immortaliser tout ce qu'il a vu. La situation géopolitique étant ce qu'elle est, notamment avec le danger russe, il faudra prévoir un itinéraire savamment pensé, compter sur le guide Ali et plutôt partir par le sud en rejoignant Antalya. Avant d'en arriver au départ, la mangaka prend un peu le temps pour différentes choses, nous immiscer un petit peu dans Ankara, continuer de travailler en douceur le rapport de Smith et Talas, ou même nous offrir un excellent passage sur de vieilles techniques de photographie de l'époque, passage à la fois instructif et joli, dans sa façon de mettre en avant les vertus des photographies, pouvant transmettre de précieux témoignages à travers le temps. Sans doute un bon moyen pour l'autrice de rendre un petit hommage à l'un de ses moyens de documentation. Et quand le voyage reprend finalement ses droits, il nous offre déjà deux belles choses, des visuels toujours aussi minutieux et détaillés bien sûr, que ce soit dans les costumes ou les paysages, mais également des moments malins comme celui sur la montre et surtout la perspective de recroiser la route de différents personnages que l'on a tant aimé suivre dans les volumes précédents. Le tome est dans l'ensemble assez calme, mais l'œuvre est toujours aussi savoureuse. Loin de s'essouffler, Bright Stories, en plus d'être un ravissement permanent pour les yeux, repart de plus belle avec beaucoup de promesses. Voilà, donc Bright Stories à retrouver pour le moment en 11 tomes aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite, j'aurais dû mettre Zoro, maintenant j'ai envie de l'écouter. On va s'écouter complètement autre chose, c'est dommage. C'est Kodakumi avec Come Over et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. C'est comme si on y était. Alors, c'était Kodakumi avec la chanson Come Over. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. On a eu une sortie aujourd'hui, lundi 24 février, chez Black Box, avec le coffret des volumes 11 à 20 de Kimengumi, un collège foufoufou. Foufoufou, ouais, j'en ai oublié. Okay. Ensuite, pour mercredi 26 février, chez Soleil, on aura la sortie du volume 12 de Friends Games, le volume 7 de La Fille du Temple au Chat, le volume 13 de Love Instruction, How to Become a Seductor, le volume 8 de Ma Petite Femme et le volume 6 de The World's Best Boyfriend. Et aux éditions Nobi Nobi, on aura la sortie du volume 3 de Goldfish. Pour jeudi 27 février, aux éditions Komiku, on aura la sortie du volume 3 de Divine Meteor, le volume 1 de Faraway Paladin et le volume 1 des Fleurs de la Mer Égée. Aux éditions Akata, on aura le volume 3 de Imizu, le volume 6 de Made in Even, le volume 1 de Nos Cœurs Évanescents. Alors, il y a un jeu de mots parce que c'est cœur, genre le cœur. Et entre parenthèses, il y a un H pour les cœurs de voix. Voilà, Nos Cœurs Évanescents. Et le volume 1 de You My Baby. Et aux éditions Nazca, on aura la sortie du volume 5 de Tales of Demons and Gods. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 28 février avec Shekana, le volume 4 de Bloom Into You, le volume 8 de Boruto Naruto Next Generations, le volume 4 de Gamaran, le tournoi ultime, le volume 60 déjà de Gintama, le volume 4 de Jardin Secret et le volume 42 de Zetai Karen Children. Aux éditions Naban, on aura le volume 2 de Demande à Modigliani et le volume 1 de Old Boy, la réédition 2020. Aux éditions Ototo, on aura le volume 6 de Fate Stay Night, Evansville, le volume 2 de La Petite Faiseuse de Livres, Ascendance of a Bookworm, le volume 8 de Made in Abyss, le volume 7 de Mayball Feminine Football Team, le volume 6 de Murcielago et le volume 3 de The Irregular at Magic High School, Enrôlement. Et enfin, aux éditions Taifu, on aura le volume 2 de Goodbye Red Beryl, le volume 1 de Ikumen After plus A, le volume 6 de Twittering Birds Never Fly et le volume 1 de Un démon au paradis. Voilà, on va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Karma de Kokia et on viendra juste après pour parler culture avec le sumo. Donc c'était Kokia avec la chanson Karma. On passe maintenant à la partie culture. Donc on va parler du sumo, dont les origines remontent au début de notre ère. Donc c'est le sport japonais par excellence. Ces 6 tournois annuels dans le pays sont l'occasion de grands divertissements populaires diffusés en direct à la télévision. Ils se distinguent des autres disciplines nippones par la vie d'ascète de ces lutteurs, qui sont reclus au sein d'une communauté hiérarchisée. Par l'importance de leur style et de leur personnalité dans les combats et dans le cœur du public. Donc on va parler d'un truc très important, le mawashi. Donc c'est la ceinture qui enveloppe la taille et l'aine du lutteur, qui est pendant le combat son seul vêtement et la seule prise solide pour son adversaire. Donc il est en coton noir épais pour les non-titulaires et pour les lutteurs titulaires ou sekitori. Donc il y a 6 rangs allant de champion junior au grade suprême de yokozuna. Il est de coton blanc à l'entraînement et en soie de diverses couleurs pour les tournois officiels. Il s'agit d'une bande de tissu pliée sur la largeur et d'une longueur de 9 mètres, voire plus. Donc le sumotori, entièrement nu, la passe d'abord entre ses jambes, puis tourne sur lui-même avec l'aide d'un ou plusieurs assistants, car il faut bien serrer et nouer à l'arrière pour en assurer la solidité et aussi limiter l'espace où l'adversaire peut glisser les doigts entre le ventre et la ceinture. Donc pour les règles, parce que peut-être que vous ne connaissez pas les règles, comme moi. Donc, est déclaré vainqueur celui qui parvient à pousser l'autre hors d'un cercle d'argile de 4,55 mètres de diamètre, le doyo, ou à lui faire toucher le sol avec une autre partie que la plante des pieds. Alors, les combats ne durent souvent que quelques secondes, hein, voilà, juste le temps de... Et puis, le gars tombe, voilà. Donc, il n'y a pas de catégorie de poids en sumo professionnel, ce qui peut donner lieu à des spectacles assez étonnants entre un mastodonte de plus de 200 kg et un lutteur de 130 kg. Qui semble tout petit à côté. Et imaginez-vous à côté. Après un cérémonial appelé le Shikiri, apparenté au rituel Shinto, donc la religion animiste originaire du Japon, la lutte commence par le Tachiai, l'entrée en collision dans un claquement de chair. Voilà, c'est joliment dit. Hein. Donc si vous ratez le Tachiai, vous avez 80% de chances de perdre, donc il faut le travailler dur, explique à l'AFP le champion géorgien Tsuyoshi Toshinoshin. Les coups du plat de la main et les gifles sur la joue sont autorisés. Imaginez les se claque sur ta gueule. Mais il est interdit, par exemple, de donner des coups de poing ou du tranchant de la main. Il est interdit aussi de tirer les cheveux ou de saisir la partie verticale du mawashi. C'est très dangereux. L'esquive pour faire tomber l'adversaire sous l'effet de son propre élan, surtout s'il fait genre 2 kilos et qu'il vous fonce dessus, forcément, si vous faites une petite esquive comme ça, à mon avis, il n'a pas le temps de s'arrêter. Donc l'esquive est autorisée, mais c'est quand même considéré comme une manière assez peu reluisante de vaincre, forcément. Voilà, donc c'était très intéressant. On va continuer à parler du sumo la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter une autre chanson, c'est Zéro de Kondo Masaiko, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 18 de Barakamon.
ドア越し 腰に何かをつぶやく戸惑いが音を立てて崩れ落ちる触れる
Donc c'était Kondo Masaiko avec la chanson Zero. On passe maintenant à la chronique du volume 18 de Barakamon. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre comédie tranche de vie qui a été écrit par Yoshino Satsuki et prépublié dans le Gangan Online. La version japonaise est parue aux éditions Square Enix avec un total de 18 volumes qui terminent la série et la version française est parue aux éditions Kiun avec également 18 tomes. Donc ce volume 18 est sorti le 19 septembre 2019 au prix de 7,65€. Le résumé de ce tome, tandis que la vie suit son cours à Nanatsutake, un étrange duo de vidéastes débarque au village afin de réaliser un reportage. Seulement, entre la froideur des habitants et l'inhospitalité des lieux, les deux jeunes Tokyoïtes sont vite découragés. C'est alors qu'ils tombent sur Seishu, qui va leur montrer une facette bien plus sympathique de la campagne. De leur côté, les enfants attendent avec impatience la rentrée des classes, et Naru est tout excité à l'idée de rencontrer de nouvelles têtes. Mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Découvrez la conclusion pleine de fraîcheur de Barakamon, véritable concentré de bonne humeur, avec sa ribambelle de héros à la fois touchant et haut en couleur. Donc voici déjà environ un an que Seishu est arrivé sur l'île de Nanatsutake. Au bout de cette année d'apprentissage, il était censé retourner à Tokyo, mais au fil du temps, ses choix se sont métamorphosés à tel point qu'il en est arrivé à ouvrir une école de calligraphie sur l'île pour les habitants. Et tandis que les enfants suivent plus ou moins assidûment les cours en vue d'une prochaine publication dans un magazine, chacun des villageois poursuit tranquillement sa route. Et voilà, après 7 ans de publication en France, dont 7 ans en France et 9 au Japon, l'heure est venue de découvrir les derniers événements de Barakamon, tranche de vie drôle, chaleureuse et lumineuse, qui aura très souvent su nous faire passer d'excellents moments, surtout grâce à sa galerie de personnages haut en couleur, la petite Naru en tête. Et pour cet ultime volume, Satsuki Yoshino ne change pas foncièrement sa recette, faite d'instants de vie agréables et de moments de calligraphie, entre autres joyeusetés. Cela dit, ce dernier tome parvient tout de même à boucler une sorte de boucle, et cela passe par différentes petites choses, à commencer bien sûr par le fait que l'année que Seishu devait passer sur l'île est désormais écoulée, et qu'il a fait le choix de rester à Nanatsutake, aux côtés d'habitants qui lui ont apporté beaucoup au fil des mois, même si certains quitteront ce petit recoin insulaire dans un futur proche ou moins proche. Nombre de moments montrent bien à quel point le calligraphe fait désormais partie intégrante de l'île, ses salutations et interactions quotidiennes avec les villageois, le désir des enfants de lui souhaiter son anniversaire, la fête du dernier chapitre, sans oublier la symbolique que possède le dernier instant de calligraphie de la série, ou même ce que notre héros dit à Naru à la toute fin en contemplant la mer. Qu'il semble loin l'arrogant et solitaire jeune homme des débuts de la série, qui se demandait pourquoi on l'envoyait là, et qui ne voyait en la fillette qu'un élément perturbateur, ingérable. Qui plus est, même si certains visages secondaires citadins sont un peu oubliées. Dans l'ensemble, la mangaka n'oublie pas grand monde et offre même à certaines têtes des petites évolutions personnelles qui concrétisent aussi quelque chose de leur côté. On pense notamment au trip télévisuel de Kosuke, au début de mangaka de Tama, au nouveau projet professionnel du père de Miwa, à ce qui en découle sur Miwa elle-même, qui serait presque touchante sur quelques cases, et bien sûr à l'importante petite avancée de Naru vis-à-vis de sa relation avec son père. Tout ceci, Yoshino le glisse le plus naturellement du monde, dans une atmosphère qui reste toujours fidèle à elle-même. Et de manière générale, c'est bien cette atmosphère si chaleureuse qui continuera de régner jusqu'à la dernière page. Tous ces personnages vont poursuivre leur vie, mais l'autrice sait amener une conclusion satisfaisante, chose qui n'est pas toujours aisée dans ce type d'œuvre. La cerise sur le gâteau, ce serait évidemment que Ki-Hoon nous fasse la bonne surprise de publier aussi le volume extra nommé 18+1. Mais ça, seul l'avenir nous le dira, parce que pour le moment, il n'est pas encore sorti. Voilà, donc du coup, je pense que je vais être en retard, donc on va... Je pense que vous avez assez entendu parler du coronavirus, donc je vais garder ma news pour la semaine prochaine. Voilà, elle sera toute prête. Du coup, on va s'écouter quand même Super Beaver avec Rashisa, qui a servi de premier opening pour l'animé Barakamon. Et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
とは違う腕差をつけろコンビニの雑誌コーナー表紙として書いてあった自分らしさってな しい。
Donc c'était Super Beaver avec la chanson Rachissa qui est servie de premier opening pour l'animé Barakamon. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale dans le cadre de la tournée Changbo Underground Rockstar World Tour 2020 with Ash Island. Les rappeurs Changbo et Ash Island performeront dans 3 villes européennes en avril et en mai prochain avec le tourneur Cult of Fia. Alors, les places seront en vente à partir du 26 février, dans 2 jours, et vous pourrez suivre les actualités du concert via les réseaux de Cult of Fia. Voilà, si ça vous intéresse. Alors, pour les dates des concerts, on aura un concert le 30 avril 2020 à Amsterdam au P60. On aura ensuite le 3 mai à Londres à l'Oval Space, et enfin le 4 mai 2020 à Paris au Trabendo. Voilà, donc du coup, on s'écoutera Blue Moon de Changbo en featuring avec Yolin pour finir l'émission. Demain matin, vous retrouverez Philippe pour la matinale de 7h à 10h. Et de 10h à 11h30 pour l'émission Bonjour, ça sera Guy. Moi, vous pourrez, a priori, me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Surtout, restez à l'écoute quand vous aurez fini d'écouter Changbo, puisque après, on a décidé de passer The Who avec Yuve Yuve You. Voilà. Et voilà, donc vous devez rester pour écouter ça. Et sinon, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!